Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nine-Nar-Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en anglais en 1959 et paru en français aux éditions de Minuit. La mise en scène de la vie quotidienne 1, la présentation de soi, est un classique de la sociologie interactionniste. Erving Goffman y examine les rencontres ordinaires. Les échanges professionnels et les situations de service non comme de simples manifestations spontanées de la personnalité, mais comme des représentations réglées. Son outil principal est une analogie dramaturgique dans chaque situation, les individus se présentent devant un public, soutiennent un rôle et cherchent à produire une impression cohérente. Loin de réduire les rapports humains à la fausseté, cette perspective montre comment la coopération sociale dépend de conventions tacites. Goffman observe les détails concrets de l'interaction, gestes, langage, apparence, décor, distance et incidents. L'ouvrage vise ainsi à rendre visible l'ordre fragile qui organise la vie quotidienne et à fournir un vocabulaire précis pour comprendre la présentation de soi. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la métaphore théâtrale comme méthode d'analyse des interactions, la force de Goffman réside dans l'usage méthodique, plutôt que décoratif, du vocabulaire du théâtre. Une interaction devient une représentation, un acteur se produit devant un public dans une situation définie, en mobilisant des signes qui permettent aux autres de comprendre ce qui se passe. Le rôle ne désigne donc pas nécessairement une identité mensongère. Il correspond à l'ensemble des conduites attendues d'une personne occupant une position donnée, par exemple un salarié face à un client ou un hôte face à ses invités. Cette grille permet de saisir que la stabilité apparente des relations dépend d'un travail collectif. Le public interprète les signes proposés et coopère souvent pour maintenir une définition plausible de la situation. Les participants évitent ainsi de transformer chaque rencontre en enquête sur les intentions profondes d'autrui. La métaphore éclaire aussi la pluralité des identités sociales. Une même personne ne mobilise pas les mêmes manières de parler, de se vêtir ou de se tenir selon le cadre. Goffman ne dit pas que la société est littéralement un théâtre. Il utilise cette comparaison pour isoler les mécanismes de coordination, de contrôle des impressions et de maintien de l'ordre qui traversent les scènes ordinaires. Deuxièmement, façade personnelle, décor et contrôle des impressions, la présentation de soi repose sur une façade. Soit l'équipement expressif utilisé pour définir une situation et rendre un rôle crédible. Goffman distingue notamment le décor lié au lieu matériel de l'interaction et la façade personnelle, qui inclut l'apparence et la manière, un uniforme, un bureau, une tenue. Une posture ou un vocabulaire spécialisé ne sont pas de simples détails esthétiques. Ils fournissent au public des indices sur le statut, l'activité et les normes attendues. Leur efficacité tient à leur cohérence. Si les signes se contredisent, la confiance dans la représentation peut se fragiliser et les participants doivent réinterpréter la situation. Le contrôle des impressions ne suppose pas une manipulation calculée à chaque instant. Il décrit un effort souvent routinier pour éviter les signaux incompatibles avec le personnage tenu. Cette analyse explique pourquoi les organisations encadrent fréquemment la tenue, le comportement ou les espaces accessibles à leurs membres. Elles cherchent à assurer une image collective stable devant leur public. Goffman montre ainsi que l'identité sociale est toujours matérielle et relationnelle, elle se construit à travers des objets, des lieux et des conduites que les autres savent lire. Troisièmement, scènes et coulisses protéger ce que la représentation ne doit pas montrer. La distinction entre région antérieure et région postérieure structure l'analyse de Goffman. Dans la région antérieure, les acteurs se trouvent devant le public et respectent les exigences du rôle. Dans la région postérieure, ils peuvent relâcher certaines contraintes. Préparer la prestation, commenter le public ou laisser apparaître des éléments incompatibles avec la façade officielle. Les coulisses ne constituent pas un espace de pure vérité opposé à un monde public artificiel. Elles sont elles aussi organisées, dotées de règles et de solidarité propres. Leur fonction centrale est de rendre possible la représentation en séparant les informations, les gestes et les préparatifs qui risqueraient de la déstabiliser s'ils devenaient visibles. Cette séparation éclaire l'importance sociale de la discrétion. Les participants savent souvent qu'une prestation comporte des ajustements, des difficultés ou des artifices, mais ils acceptent de ne pas les exposer. Les ruptures de frontières peuvent alors être embarrassantes, car elles révèlent les mécanismes qui soutiennent l'apparence de naturel. En analysant cette architecture des espaces, Goffman montre que l'intimité, le secret professionnel et la séparation entre rôles ne sont pas périphériques, ils sont des conditions pratiques de la confiance et de la continuité des relations. Quatrièmement, équipe de représentation et coopération dans la construction de la crédibilité, Goffman ne limite pas la représentation à un individu isolé. Dans de nombreuses situations, une équipe coopère pour produire une définition commune de la réalité. Les membres d'un restaurant, d'une administration ou d'une entreprise doivent coordonner leurs gestes, leurs discours et leurs informations afin de donner au public une impression cohérente. Cette coopération exige une loyauté interne. Chacun détient parfois des éléments susceptibles de compromettre la prestation collective et doit apprendre ce qui peut être montré, tu ou corrigé. La représentation est donc un travail d'organisation autant qu'une affaire de personnalité. Elle suppose une distribution des rôles, des routines et des frontières entre ceux qui participent au secret de la prestation et ceux qui en sont exclus. Goffman insiste aussi sur les incidents. Un oubli, une maladresse ou une contradiction peut mettre en péril la définition de la situation. Les participants s'emploient alors à limiter les dégâts, à justifier l'écart ou à rétablir la continuité de l'échange. Cette attention aux réparations révèle que l'ordre interactionnel est précaire. Il ne tient pas seulement à des règles imposées d'en haut, mais à une multitude d'ajustements discrets par lesquels les personnes préservent ensemble la crédibilité de la scène. En dernier lieu, une sociologie du détail ordinaire et ses prolongements contemporains. L'ouvrage se distingue par son choix d'objets, les gestes apparemment mineurs de la vie sociale. Goffman prend au sérieux ce que des approches centrées sur les grandes institutions ou les statistiques risquent de laisser de côté, soit les regards, les silences, les manières d'entrer dans un lieu et les signes de déférence. Il ne prétend pas que ces micro-interactions expliquent à elles seules les inégalités ou les rapports de pouvoir. Sa contribution est de montrer le niveau concret auquel les normes deviennent perceptibles et sont continuellement reproduites ou ajustées. Cette perspective reste particulièrement utile pour comprendre les espaces numériques. Les profils, images, commentaires et paramètres de visibilité prolongent la présentation de soi, mais compliquent la séparation entre public et coulisses. Un même contenu peut être vu par des personnes associées à des rôles habituellement distincts, ce qui rend plus difficile le maintien de façade adapté à chaque contexte. La lecture de Goffman invite donc à observer les contraintes de visibilité plutôt qu'à opposer naïvement authenticité et apparence. Elle permet également de relier les compétences interactionnelles aux ressources sociales inégalement distribuées. L'aisance à tenir un rôle, à interpréter les codes ou à réparer un faux pas dépend aussi de l'apprentissage et de la position sociale. En conclusion, la mise en scène de la vie quotidienne 1, elle s'adresse aux étudiants en sociologie, communication, psychologie sociale ou management, mais aussi à toute personne désireuse de comprendre avec plus de précision les situations ordinaires. Il sera particulièrement fécond pour les lecteurs qui veulent analyser les relations de travail, les services, les entretiens, les échanges familiaux ou les pratiques numériques sans les réduire aux seules intentions individuelles. Son bénéfice intellectuel tient à un déplacement du regard, ce qui paraît banal devient un ensemble de règles, de signes et de coopérations qu'il est possible de décrire. Cette attention aide à comprendre pourquoi certaines situations sont fluides, pourquoi d'autres deviennent embarrassantes, et comment les participants réparent les ruptures de confiance. L'ouvrage se distingue des essais généraux sur l'identité par son ancrage dans la mécanique concrète des interactions. Goffman ne livre ni une théorie psychologique de la personnalité ni un manuel de persuasion. Il propose une sociologie rigoureuse des conditions par lesquelles une impression devient crédible et un ordre social demeure praticable. La métaphore théâtrale pourrait sembler simplificatrice, mais elle gagne sa puissance de son application minutieuse aux détails matériels et relationnels. Pour compléter cette lecture, il est utile de la mettre en dialogue avec des approches des classes et des institutions, qui éclairent les ressources inégales dont disposent les acteurs. Reste que peu de livres rendent avec autant de netteté la dimension organisée, collective et fragile de la présence à autrui. Si vous souhaitez soutenir Erving Goffman, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.